Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h48, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin Mgr Benoît de Cinetti, vicaire général de l'archevêché de Paris.
Bonjour à vous et bienvenue dans ce studio d'RTL, Mgr de Cinetti. Vous signez ce livre, il faut que des voix s'élèvent à propos des migrants chez Flammarion, on va en parler. Mais un mot d'abord sur le fait que les Français, beaucoup de Français vous ont découvert pendant cette messe d'obsèques de Johnny la Madeleine que vous avez célébrée. C'était un moment de communion nationale qui paraît d'ailleurs déjà loin, je dois dire. Vous vous en souvenez, vous, comme d'un moment assez exceptionnel ?
Oui, je m'en souviens d'un moment exceptionnel, comme tout le monde. Voilà, beaucoup de monde, beaucoup d'émotions, une grande ferveur, une grande écoute. Ça reste évidemment un souvenir qui reste gravé dans ma mémoire.
Ça a changé quelque chose pour vous ?
Non.
On vous reconnaît dans la rue ?
Non. Non, ça va.
Et comment est-ce que vous vivez, au-delà de ça, ce décalage fantastique entre cette pompe, cette célébration démesurée, en direct à la télé, à la radio, le défilé inouï de stars, et puis votre quotidien de prêtre ?
Ben, vous savez, on est au cœur des défis de ce monde. C'est-à-dire qu'il y a une part de pompe, comme vous dites, que certains peuvent appeler spectacle. Et puis après, il y a la réalité du quotidien qui est bien loin de ces moments un peu particuliers. Donc je le vis, il ne faut pas devenir schizophrène, il ne faut pas devenir un peu fou. Mais non, je le vis, voilà, je goûte tous ces moments, que ce soit des célébrations importantes ou des rencontres avec les personnes, ouais. Quelles qu'elles soient.
On n'oublie pas les hommes.
Non.
Le Vatican s'en prend, Mgr de Cinetti, aux riches et aux acteurs de la finance mondiale dans un document publié, en tout cas par extrait dans La Croix ce matin. Il propose des pistes de réforme. C'est une charge lourde contre la puissance, je cite, la puissance de nuisance sans égale des marchés financiers. D'abord, quelle mouche le pique ? Et deuxièmement, quelle est sa compétence économique pour aller sur ce terrain ?
Vous savez, c'est une vieille affaire dans l'Église, la question de l'argent, parce que dans l'Évangile, Jésus en parle avec une phrase restée célèbre et qui est très simple. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu à propos d'une pièce de monnaie qu'on lui présente. Et puis il dit aussi, on ne peut pas adorer à la fois Dieu et l'argent. Donc à vous de choisir.
Mais là, il ne s'attaque pas seulement à l'argent. Pour en parler, il s'attaque à un système économique.
Oui, alors voilà. Ouais. Donc aujourd'hui, on voit que les choses ayant évolué, on est devant un système économique que beaucoup disent immaîtrisable, ou en tout cas très peu maîtrisable, et qui engendre ou qui entretient des inégalités dans le monde qui sont croissantes et qui sont un peu terrifiantes. Contrairement à ce que vous disiez, je ne pense pas que ce document soit une attaque contre les riches, mais contre l'argent et la puissance de l'argent, et surtout la puissance
c'est
que nos sociétés...
C'est pas immoral d'être riche, on peut être très riche.
Oh, bien c'est sûr, on peut être très riche. Oui. La question de l'argent, c'est ce qu'on en fait. Ouais. C'est ce qu'on en fait.
Peut-être aussi comment on l'a gagné.
Ah ben ça évidemment, ouais. Oui, ça évidemment. Mais on peut être très riche. Si c'est pour nager dans ces dollars, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Si c'est pour le redistribuer et faire que la vie économique, grâce à moi, puisse devenir plus féconde pour les gens, eh ben c'est très bien.
Oui, mais justement, l'Église, elle a souvent dit ça. Elle s'était résignée à une forme... Enfin, elle avait pris acte des inégalités et puis qui était compensée par ce que vous dites un peu, par la charité, oui. Par les dons. Vous êtes très riche, faites des dons et puis finalement, tout le monde ira bien, la conscience sera lavée. Là, c'est autre chose.
Parce que le déplacement qui s'opère, c'est qu'aujourd'hui, on a le sentiment que l'argent devient un maître et que la question de la vie économique n'est pas simplement de favoriser le développement et la création d'activités, d'emplois, etc., mais que l'argent est là pour l'argent. Voilà. Et que c'est ce déplacement vers une forme d'idolâtrie absolue de l'argent et sa place de suprématie dans le monde. Comme le dit le document, par exemple, quand on fait des sommets COP 21, 22, demain 23, 24, etc., on s'aperçoit qu'un des principaux freins à toutes les mesures qui peuvent être réfléchies, c'est qui va payer ? Comment on va faire ? Ça va handicaper l'économie, le développement de la croissance, etc. etc. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, la fin ultime de la réflexion, c'est pas sauver la planète, mais c'est comment permettre à la finance de continuer à se développer malgré tout. Et ça, c'est une vraie question.
Donc en fait, il faut changer de logique. C'est ce que préconise l'Église.
De logique et de logiciel, comme on dit aujourd'hui.
Ouais. Et donc il y a des recettes donc, sont dans ce document qui sont très précises. Par exemple, créer un impôt minimum sur les transactions offshore. L'Église va sans doute choquer aussi, parce qu'elle semble mettre en doute la moralité finalement du système.
Bah, vous savez, la moralité du système...
La moralité du système bancaire, par exemple.
Oui, mais parce qu'il suffit de regarder tous les scandales qui peuplent notre actualité quotidienne, jour après jour, que vous relayez les uns et les autres pour voir que cette moralité, elle est quand même un peu douteuse, parfois.
Dans votre livre, vous avez un chapitre qui est d'ailleurs titré « Nous sommes des enfants gâtés ». Hein, c'est un livre plaidoyer, un livre très vif, d'un peu plus d'une centaine de pages, qui nous fait réfléchir sur l'accueil des migrants. Mais nous sommes des enfants gâtés, permettez-moi, mais tout le monde n'est pas logé à la même enseigne.
Non, bien sûr que non. Il s'agit pas, c'est pas une parole qui se veut culpabilisante pour chaque personne en particulier.
Vous
mais c'est notre
société.
Non,
vous voulez pas nous faire la morale?
Pas du tout. Non, non, pas du tout. Je vais vous faire réfléchir. Réfléchir sur la manière dont aujourd'hui on veut envisager notre société. En fait, pourquoi est-ce que nous vivons? Pourquoi est-ce que nous sommes sur cette terre? À quoi est-ce que ça sert tout ça? Est-ce que c'est pour pouvoir accumuler chacun le plus de biens que nous pourrons gratter, comme ça, au risque de détruire autour de nous notre planète, au risque de détruire la vie des autres? Ou bien est-ce que nous sommes sur cette terre pour pouvoir la faire fructifier ensemble? Ça peut paraître très naïf, très angélique, mais en fait...
Un peu binaire, quoi.
Oui, un peu binaire, ouais. peut-être. Mais souvent, c'est aussi ce qu'on rétorque pour s'éviter de réfléchir.
Vous pensez que c'est une façon d'éviter cette réflexion de fond? Vous savez, les migrants, vous dites qu'il faut que des voix s'élèvent. On en parle beaucoup. C'est récurrent, c'est permanent dans le
vous
débat
trouvez qu'on en parle
la problématique
tant que ça.
Des migrants.
Moi, je trouve que, vous voyez, par exemple, ça fait 6 semaines qu'il y a un campement Porte de la Villette, avec 2000 personnes qui sont à Paris.
Ce sont
qui
des
sont
arrondissements
là.
Qui sont sous votre charge, je crois.
Oui, que j'accompagne. Ouais. Ça fait 6 semaines qu'ils sont là. On en parle de manière importante depuis une dizaine de jours dans les médias. C'est-à-dire qu'en fait, il y a, je pense, une espèce de... C'est tellement compliqué, c'est tellement douloureux qu'on ne sait pas très bien comment traiter ce sujet. Et moi-même.
Et on le traite mal du coup dans le débat public,
le risque, c'est que du coup, on le traite par le silence. Parce qu'on n'a pas vraiment de paroles satisfaisantes à apporter, on n'en parle pas.
On en a des paroles, vous le savez bien, mais assez peu.
Parce que vous avez deux types de discours politiques aujourd'hui qui s'expriment sur les migrants. Le premier, c'est de dire avec nous, ils ne passeront pas. Et l'autre qui consiste à dire c'est formidable, c'est l'avenir du monde. Moi, je dis qu'entre ces deux discours, il y a une voie médiane.
Il y a un discours excluant et un discours archi-incluant,
au risque de la démagogie, parce qu'on sait bien que, évidemment, un État se doit d'établir un système juridique, un système de contrôle pour le bien de ses citoyens et pour le bien de son peuple.
Donc ceux qui disent, parce qu'on les entend, il y en a effectivement, par exemple sur l'échiquier à gauche de la gauche, qui disent il faut accueillir tout le monde.
Moi je pense qu'il ne s'agit pas du tout de dire il faut accueillir tout le monde sans discernement. La France, comme tous les pays, ont un devoir d'établir des lois qui réglementent un certain nombre de choses, et notamment l'accès sur le territoire. Encore faut-il d'une part appliquer ces lois et les appliquer, et c'est ça mon principal souci, avec humanité et charité.
Vous les connaissez, vous allez les voir, ces migrants.
Oui, bien sûr.
Je voudrais vous poser une question pratique. Ceux qui ne sont pas autorisés à rester en France, par exemple, ceux qui sont déboutés du droit d'asile, qui sont entrés clandestinement, qui n'ont pas le profil, à l'évidence, de rester selon les critères légaux qui sont établis par le gouvernement, il faut les accueillir?
Si vous avez des lois, ces lois, elles doivent être respectées. La question, c'est d'une part l'accès à leurs droits, qui pour beaucoup n'est pas tout à fait garanti, d'abord parce qu'ils ne parlent pas le français, ensuite parce qu'ils ne sont pas pris en charge quand ils arrivent. Ils arrivent, ils déboulent sur le territoire, ils s'installent sur le bitume quelque part, et puis on les laisse. Voilà. Alors des associations font beaucoup de travail, vont à leur rencontre, essaient de les acheminer vers les circuits administratifs, mais enfin c'est un travail de romain, si vous voulez. Donc il ne s'agit pas de dire... Open bar, allons-y, ouvrons, et puis on s'en fiche, mais de dire on a une responsabilité par rapport à ces gens qui, même s'ils doivent repartir chez eux, nous ne pouvons pas les mettre dehors comme des chiens.
Mais qu'est-ce que, par exemple, Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, dit il ne faut pas faire des points de fixation.
Oui.
Hein, sous-entendu, après ça fait des appels d'air, etc. Oui. Les migrants s'installent, et puis il y en a d'autres qui arrivent. Ça, oui. c'est une approche qui vous choque ou
pas? Mais l'appel d'air.
Le point de fixation.
Mais oui, mais le point de fixation, c'est un vocabulaire militaire, on n'est pas en guerre. On n'est pas en guerre, c'est pas une guérilla urbaine dont il s'agit. Ce sont des hommes et des femmes qui viennent. Peut-être ont-ils pas le droit de venir et de rester chez nous, mais en aucun cas ils ne sont des criminels et des causeurs de troubles.
On les traite comme ça ?
Mais en tout cas, en utilisant ce vocabulaire-là, les mots ont un sens. Quand on parle de jungle à Calais, et qu'on s'étonne que les gens, au bout de quelques mois, deviennent comme des bêtes sauvages... Quand on dit on va laisser pourrir une situation et qu'on s'étonne qu'à la fin, les gens finissent par vivre au milieu d'ordures et se conduisent d'une manière sauvage, les mots ont un sens. Les points de fixation, ça n'est pas la réalité de ce qui se passe.
Dans cette affaire de migrants à Paris, au nord de Paris, d'un mot, les autorités sont défaillantes, elles ne font pas face aux responsabilités, elles ne sont pas humaines.
D'un mot, les autorités doivent réfléchir et prendre conscience que ces personnes qui sont là sont des hommes et des femmes et qu'ils doivent être respectés en tant que tels, comme n'importe quel autre être humain sur cette terre.
Merci beaucoup, Monseigneur de Sinéty, d'avoir été ce matin sur RTL. Bonne journée à vous.
Merci.
On a l'impression que l'argent devient un maître. L'argent pour l'argent, il faut changer de logique et de logiciel, vient de nous dire le vicaire général de l'archevêché de Paris, Benoît de Sinéty, qui publie, je vous le rappelle, Il faut que des voix s'élèvent aux éditions Flammarion.